Ah, merci.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Est-ce que je peux vous demander comment vous vous appelez ?
Je m'appelle Agnès.
On est où ici, Agnès ?
Ici, on est à l'Académie de dessin et des arts visuels.
De Molenbeek.
De Molenbeek.
Bah, en fait, on est venu ici avec le landau de Radio Maritime parce que on sait que les étudiants de l'Académie préparent une exposition, c'est ça ?
Tout à fait, oui.
Alors expliquez-nous, là on est au rez-de-chaussée de l'Académie et comment va se passer cette exposition ? Elle est en train d'être installée, mais voilà, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu, peut-être étage par étage aussi, ce qu'on va pouvoir y trouver ?
Donc ici au rez-de-chaussée, il y a la céramique, voilà l'exposition de la céramique, et l'autre côté c'est le local de céramique, et à votre gauche, il y a la sculpture.
Ouais.
Et en allant un peu devant, il y a l'escriture aussi dans la cave. Donc au premier étage, il y a l'escalier, il y a l'ascenseur également. Donc la première...
Premier étage.
Premier étage, et à votre gauche, il y a local de dessin.
Ouais.
Et l'autre, il y a pluri aussi. Deuxième local, il y a la gravure.
Bien.
Et puis, il y a salle d'animation également et salle de montage.
Parfait.
Au premier
étage. Et donc il va y avoir des projections aussi, alors ?
Il y aura des projections.
Projections de films ? Oui. Très bien. Voilà. Et vous, alors, vous êtes qui dans l'Académie ? Vous êtes à l'accueil ? Vous êtes,
Et moi, je suis la concierge de l'Académie des dessins de Molenbeek. Donc, le deuxième étage... Et le premier étage, déjà dit, le deuxième étage, il y a la peinture, il y a vidéographie, infographie et photographie également.
Très bien. Ça ouvre ce soir, c'est ça ?
Ça ouvre ce soir à 18h jusqu'à 21h. Et ouais.
Merci.
Je vous en prie. Merci.
Alors j'ai perdu Mario qui se balade dans l'exposition déjà, mais je vais le récupérer. C'est Radio Maritime. On est ensemble jusqu'à midi. Vous écoutez Radio Panique ? C'est bien. Radio Maritime.
Dans l'intime du quartier maritime.
Venez, vous êtes tous et toutes invités. Radio Maritime, c'est la radio multiculturelle. Tous les jeudis, de 11h à midi, sur Radio Panique 105.
Radio Maritime, vadrouille.
Radio Maritime, déménage.
Tu reviens là. Écoutez Radio Maritime, on est ensemble jusqu'à midi, on est à l'Académie de Molenbeek avec Mario que j'ai retrouvé parce que je l'avais perdu en début d'émission, il était parti déjà visiter l'expo. Ça va Mario, bonjour.
Oui bonjour, tout va bien, merci. Ouais. Un peu chaudement mais tout va bien sinon, à part
ouais.
Ça.
Alors il paraît que tu as mal dormi.
J'ai mal dormi, mon chat m'a agressé pendant la nuit.
C'est pas possible.
Il m'a réveillé toutes les demi-heures, agressé psychologiquement.
Mais tu vois, ça c'est les animaux. Hein.
Oui c'est ça.
C'est les animaux. Alors, à côté de toi, il y a un new kid in town, le nouveau directeur de l'académie. Et il s'appelle Axel. Bonjour, Axel.
Bonjour tout le monde.
Ça va ?
Bonjour. Ouais.
Alors, nouveau directeur de l'académie, c'est arrivé quand ?
C'est arrivé, on va dire, en novembre, fin novembre 2020. Mais ça ne s'est pas fait facilement, on va dire. Puisque c'était quelque chose qui était dans l'air pour moi depuis juin. Donc on va dire que c'était un atterrissage en 6 mois. Et à l'heure où je vous parle, ici, je suis encore intérimaire. Hein, donc c'est une position instable, assumée. Mais voilà, je suis ravi de cet atterrissage.
C'est une période d'essai ?
Officiellement non, mais un peu quand même, on va dire. Hein, intérimaire, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais il y a toute une procédure légale qu'on doit bien respecter et je fais de mon mieux pour m'y plier, on va dire.
Qu'est-ce qui vous a attiré, Axel, dans cette fonction ? Ça veut dire quoi, en fait, finalement, devenir directeur d'une académie ?
En fait, ce qui se passe, c'est que l'année passée, quand j'étais encore dans mon ancien travail, hein, j'étais animateur philo, on va dire, j'ai fait une intervention à l'académie, une très belle intervention qui a été malheureusement interrompue net par le Covid et qui s'appelait évaluer mon travail, parler de mon travail et l'évaluer. Et donc, j'allais dans les ateliers qui le demandaient et on équipait un peu les élèves à mieux parler de leur travail, etc. Parce qu'il y a quand même du boulot, parce que voilà, on a des magnifiques talents, mais dès qu'ils doivent parler, souvent, ça bloque. Donc j'ai fait cette intervention et elle s'est malheureusement interrompue. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai eu le temps de découvrir en 3-4 interventions ? C'était une équipe de profs vraiment admirable et ça m'a directement parlé, cet enthousiasme. Et puis les élèves aussi, bien sûr, et un bâtiment que je ne connaissais pas, en fait, hein, pour être franc, parce qu'il est un petit peu excentré. Et donc, ce beau bâtiment, cette institution, cette équipe de profs qui m'a quand même directement dit oui, ce serait pas mal si tu postulais. Et donc, même si dans ma vie, j'avais jamais prévu d'être directeur de quoi que ce soit, je me suis laissé prendre au jeu de postuler. J'ai fait un dossier que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. Et c'est ça qui a préparé et facilité mon arrivée ici à l'Académie de Molenbeek.
En préparant cette émission, c'est-à-dire il y a 5 minutes, parce qu'on prépare toujours environ 5-10 minutes avant le début de l'émission, Mario, il m'a énuméré quelques questions qu'il avait envie de te poser, notamment sur le nombre d'élèves, je crois. Donc tu peux... Vas-y, Mario.
J'ai tout d'abord envie de exprimer mon admiration devant ce lieu, parce que c'est franchement un très beau lieu avec des hauts plafonds et un très grand, très bel espace. On voit tous les dessins, les peintures de toute l'école, de toute l'année, de plein d'années.
Alors,
qu'est-ce qu'on voit ici ?
comme il n'y a pas eu d'expo l'année passée pour cause de Covid, beaucoup de profs ont choisi d'exposer les 2 ans parce que les élèves, ils étaient frustrés l'année passée. Donc, il y a vraiment une profusion il y a beaucoup de choses accrochées.
Waouh. Et donc, je ne me rappelle plus de la question que j'avais tout à l'heure.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves, tu m'as demandé. Et moi, comme je ne sais pas, j'ai dit je ne sais pas.
Oui, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que je ne connais pas du tout, effectivement, puisque tu parlais d'excentrisme de ce bâtiment. Et donc, je me rends compte que j'habite à Molenbeek depuis 2 ans et je ne connais pas du tout. J'en entends parler beaucoup parce qu'il y a un de mes cohabitants qui vient ici, qui participe au cours. Et donc, c'est un grand établissement en termes de nombre d'élèves parce que tu parlais de profs, donc combien de profs, combien d'élèves, plus ou moins?
Ok, alors on a environ une petite vingtaine de profs, mm-hmm. 16, 17, je pense. Et alors, les élèves, écoute, c'est simple, Mario, quand je suis arrivé, on me disait plus ou moins 600. Et on doit faire un deuxième comptage en janvier. Et là, on était plutôt à 500. Donc, on a perdu, en tout cas cette année, on a perdu des élèves avec le Covid. Mais l'enjeu de l'expo, de la fin de l'année, de cette visibilité et aussi grâce à vous de cette écoutabilité, eh bien, l'enjeu, c'est de dire, ben voilà, revenez les 100 qu'on a perdus, parce que chez nous, évidemment, le nombre d'élèves a un impact direct sur l'emploi. Il ne faut pas se leurrer. On a des garde-fous parce que la fédération sait que c'est une période un peu particulière. Et donc, il ne faudrait pas que les élèves ne reviennent jamais, parce que du coup, on reçoit moins de périodes. Enfin, c'est tout un savant calcul que je ne maîtrise pas encore du tout. Mais donc, pour le moment, on est grosso modo à 500 élèves. Pourquoi ils ont arrêté, en fait, les élèves? Parce qu'on était en code rouge. On a la chance de n'avoir jamais fermé. Hein, donc, c'est vraiment du bol, mais incroyable. Et on fonctionnait en code rouge, ça veut dire 4 par atelier. Hein, mais faut savoir qu'il y a des ateliers, hein, notamment en dessin, par exemple, où ils sont 30. Donc, il y avait une tournante. Et donc, si on respectait bien les mesures, eh bien, il y avait une lassitude qui s'installait chez certains élèves parce qu'ils ne pouvaient pas venir quand ils le désiraient. Et ce qu'on a fait par contre, et qui a eu beaucoup, beaucoup de succès, avec l'accord des élèves, on a ouvert les ateliers en dehors des heures de cours. Et là, c'est ça aussi ça qui m'a scotché, qui m'a scié, c'est le nombre d'élèves qui viennent travailler, enfin qui viennent œuvrer, on va dire, à leur truc, à tout moment. Et ça, c'est vraiment fascinant. Ce que je savais, et c'est ça qui m'a attiré aussi dans cette école, c'est que ce n'est pas l'enseignement obligatoire, hein, c'est l'enseignement à horaire réduit. Et donc, déjà, les gens qui sont ici, ils veulent, mais il y en a qui veulent beaucoup, souvent, même parfois trop. Hein, je dis ça, je rigole, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont hyper, ils sont là tout le temps. Ouais, on peut enlever le trop. Mais par contre, c'est très touchant. Et alors, ce qui m'a vraiment beaucoup plu aussi, là, on vient d'avoir les jurys. Hein. Enfin, c'est pas fini. Hein. Il y a encore 3 jurys, mais j'en ai déjà eu 4-5. Et c'est les élèves qui expliquent combien venir ici, après une journée sur l'ordinateur en vidéoconférence, comme ils ne pouvaient pas s'en passer. Ils avaient besoin de venir se vider la tête. Et voilà quoi. Donc c'est
Est-ce qu'il y a des gens qui ont exprimé un genre de nécessité de venir ici pour rééquilibrer leur vie, oui. Trouver un équilibre quelque part, un meilleur équilibre.
Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sans parler des gens, des élèves que j'ai croisés qui avaient perdu leurs proches. Hein. Dire ça, c'est une réalité aussi. J'ai des personnes qui m'ont dit, j'ai perdu mon mari ou j'ai perdu ma sœur dans le Covid ou d'autres choses, hein, parce que le Covid a mis une telle pression sur le monde médical que parfois on perd quelqu'un, par exemple, d'un cancer, mais le Covid n'a vraiment rien arrangé dans l'accompagnement de la personne. Quoi. Et ça, c'était aussi très touchant de savoir que, par exemple, j'ai en tête une femme qui avait perdu son mari et qui venait autant qu'elle le pouvait parce qu'elle devait vraiment s'occuper de son mari mourant. Et ça, ça donne la chair de poule, quoi, vraiment.
Une autre chose qui m'a interpellé, c'est en...
Dans le micro, Mario.
Pas assez près.
D'accord.
Une autre chose qui m'a interpellé en venant ici, c'est sur la porte, ou devant la porte, à l'entrée de la porte, sur le mur, il y a une feuille A4 qui indique tous les cours ou tous les thèmes qui sont parcourus dans le cours de dessin, je pense, ou de...
Alors, si tu parles sur la porte là, oui, je ici. Pense que c'est une feuille pour le cours d'histoire de l'art.
D'histoire de l'art. C'est ça.
Et donc on a un nouveau prof, enfin une nouvelle prof super d'histoire de l'art, et c'est son programme. Mm-hmm. Et donc elle a dû faire son cours en visioconférence, en tout cas jusque mai, parce que elle avait trop d'élèves et que c'était pas possible autrement. Mais pour en avoir suivi un passionnant, vraiment vraiment chouette. Hein. Donc il y a aussi ça qui m'attire pour revenir à la question de départ. C'est que je ne suis pas plasticien, je ne suis pas artiste, hein, ce qui est curieux pour un directeur d'académie d'art, mais par contre, tout ça me passionne. Et tous les ateliers ont un intérêt pour moi et le cours d'histoire de l'art. En fait, on est vraiment baigné dans les arts visuels et dans l'histoire de l'art, et c'est assez passionnant, quoi.
Le cours d'histoire de l'art est obligatoire quand on s'inscrit, ou c'est un cours en plus
Alors, si on suit une filière diplômante, hein, ouais. Donc, il est obligatoire. D'accord. Et donc, on doit faire le cours d'histoire de l'art, on doit suivre le cours d'histoire de l'art, on a un examen, et si on ne le fait pas, eh bien, le diplôme ne pourra pas être décerné. Et c'est un problème parce que il y a des élèves qui avaient des difficultés techniques, et même pas que, hein. On a une élève, je crois, qui est malentendante, et donc c'était très compliqué pour elle. Et c'est des petits soucis qu'on a eus. Et donc, la professeure d'histoire de l'art a fait des propositions alternatives de visites d'expos, etc. etc. Et donc, mais le cours est obligatoire. Et ce n'est pas plus mal parce que, je vous dis, c'est vraiment, vraiment intéressant. On a même, et ça j'étais étonné, on a même des élèves qui sont inscrits uniquement au cours d'histoire de l'art. Ça veut dire, ça veut dire quand même quelque chose, parce que ça veut dire qu'ils ne viennent pas pour les ateliers, ils viennent suivre le cours d'histoire de l'art.
J'allais dire ça parce que moi, j'ai suivi très récemment un cours online d'histoire de l'art avec le musée d'art moderne à New York. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais juste non. Parce que ça m'a apporté énormément, c'est ça que je voulais dire en fait, ça m'a apporté énormément en termes d'ouverture, parce que je suis artiste moi-même, donc ça m'intéressait de prime abord, mais en deuxième temps, ça m'a ouvert, donné beaucoup d'ouverture par rapport à ce que je fais dans l'art, mais aussi par rapport à voilà, qu'est-ce qui existe comme énorme quantité de choses dans le monde de l'art, et donc ça donne quand même une sacrée ouverture, je trouve. Suivre un cours d'histoire de l'art, ça donne une autre vision des choses.
C'était quelle période que tu as étudié?
C'était une toute petite micro-période juste après la Deuxième Guerre mondiale.
Oula !
Oui.
Partout dans le monde ou dans une région du
l'expressionnisme
monde ? L'expressionnisme
abstrait.
Ah oui.
Voilà. Qui est vraiment... Voilà, et ça m'a interpellé parce que sur la porte, il y a Klein, il y a Rothko. Mm-hmm. Je n'ai pas vu Pollock, mais en tout cas, j'ai vu quelques noms d'artistes de cette période-là.
Qui n'ont... Et ça, c'est un mouvement qui apparaît vraiment juste après la guerre ?
Après la Deuxième Guerre mondiale, okay. Suite au fait que le monde a quasi été détruit, ouais. Ou presque été détruit, et plusieurs Américains, artistes américains, se sont dit, voilà, il faut réinventer l'art. Et donc, d'où ce mouvement.
Est-ce qu'il va falloir réinventer l'art maintenant qu'on sort d'une période où le monde a été aussi presque détruit? Ou en tout cas, les relations humaines ont été presque détruites.
Posons
la question au directeur, est-ce qu'il va falloir réinventer?
Alors, moi, ce que j'aime bien dans cette question, c'est qu'elle me permet de parler d'un sujet qui me tient à cœur. Dans mes cartons, on va dire, il y avait le volet qui était le travail d'ouverture de l'académie, hein, qui n'est pas évident du tout en période Covid, même si on a fait des choses. Mais donc, dès qu'on peut de nouveau ouvrir les portes, on va les ouvrir. Et ça veut dire qu'on va faire des activités pour les élèves, mais qui seront ouvertes aussi aux personnes extérieures, de Molenbeek et d'ailleurs. Et donc, quel genre? Ben, on a déjà fait deux fois un arpentage de livres. Hein, donc, c'est une technique de lecture très particulière qui vient de l'éducation populaire, où on lit un livre collectivement, mais avec un seul exemplaire. C'est une expérience magnifique. Hein, et donc ça, je fais la pub pour le prochain, je ne sais pas encore quand c'est, mais il faut vivre un arpentage. Et donc ça, on l'a fait deux fois. Et là, il y avait des personnes extérieures qui venaient, parce que voilà, on avait ouvert ça à 10 personnes et on n'avait que 6 élèves. Et en fait, hors Covid, on va multiplier les conférences, les workshops d'un soir, les activités que j'appelle donc ateliers, avec un petit côté d'atelier philo qui est mon ancienne pratique, mais que je veux vraiment apporter ici à l'académie, parce que c'est vraiment très chouette. Et alors, un projet que j'ai aussi avec l'académie, et j'ai lu récemment un article du Monde, hein, tu parlais du MoMA, mais moi je parle du Monde, ça fait chic aussi.
Et donc,
j'ai lu un article du Monde qui parlait de ce qu'ils appelaient ça une école-service au pluriel. Et donc, c'est une école qui se dit, mais est-ce qu'on ne peut pas offrir des services à la population avoisinante? Et donc, j'aimais bien cet article et j'aime beaucoup cette idée d'ouvrir l'école avec des services. Alors, c'est par exemple créer peut-être un atelier informatique qui ne serait pas pour les élèves, mais qui serait pour les habitants. Alors là, je rêve tout haut, mais si on ne peut pas rêver d'un monde nouveau, comme dirait Thibault, alors je préfère rendre mon tablier directement. Hein, on va dire ça comme ça.
Allez, rêvons un peu, quoi. Bon, vous écoutez Radio Maritime. On est en direct de l'Académie de Molenbeek avec son directeur et avec Mario, notre chroniqueur qui nous accompagne tout le mois de juin avec le landau. C'est un vrai plaisir. À chaque fois, il dit « ouais, je sais pas ». Et puis en fait, à chaque fois, c'est un beau moment, je trouve.
D'ailleurs, il y a une autre question qui me vient à l'esprit.
Ah ouais ?
C'est par rapport à ce bâtiment, on est dans une salle magnifique. Je disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres salles telles que celle-ci dans ce bâtiment ?
Il y a aussi d'autres. Enfin, c'est un lieu qui est partagé, hein, parce qu'on est, on est dans, quelque part, on est presque dans ou à côté de la Maison des Cultures,
tout à fait.
Qui est très connue aussi à Molenbeek. Mmh. Et puis, il y a le musée aussi, le MoMuse, ouais, qui est vraiment la porte en face. Mmh. Et là, il ne faut pas aller les réveiller. Parce que c'est des monstres de l'histoire de l'art aussi. Et quand tu les réveilles après, ils te parlent pendant des heures. Parce qu'ils viennent souvent dans Radio Maritime. on ira peut-être toquer à leur porte tout à l'heure. On verra bien, parce que moi, j'aime encore bien les avoir dans Radio Maritime. Mais vas-y, Axel.
Non, ce que je voulais dire à la question de Mario, c'est que des salles comme celle-ci, il n'y en a pas 20. Mais en tout cas, il y a celle-ci. Ouais. Mais maintenant, on a d'autres salles qui sont vraiment intéressantes. Mmh. Les ateliers de peinture sous les combles qui sont magnifiques. Mmh. Moi, un lieu que j'adore, c'est la bibliothèque. Mmh. On ne pourra pas y aller avec le landau parce qu'il y a trois petites marches. Bah bon, ouais.
Ça se porte. Hein.
Ça se porte, oui. Et en fait, la bibliothèque, c'est une vraie belle bibliothèque qui n'est pas très grande, mais qui a un très, 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 très belle mezzanine. Enfin, c'est vraiment un endroit que j'invite à découvrir. Et pour le moment, il accueille l'atelier, enfin, les travaux des élèves de l'atelier d'histoire, enfin, art du livre. Et donc, non seulement la pièce est belle, mais il y a plein de choses magnifiques qui seront visibles pendant l'exposition. Mais donc, mon but aussi dans cette volonté d'ouvrir l'académie, c'est de refaire de la bibliothèque une bibliothèque, hein, parce qu'elle a été pendant très longtemps autre chose, hein, un bureau, une espèce de salle de réunion, ce qu'elle peut continuer à être, mais aussi une bibliothèque. Et alors, ce que je peux vous dire, c'est que comment on va faire ça, parce que j'ai essayé un peu d'ouvrir la bibliothèque sur mon horaire, mais c'était compliqué. Et donc, j'ai eu des contacts avec des personnes du musée Horta qui sont venues voir nos collections. Vous n'avez pas vu, mais j'ai fait les guillemets avec mes doigts. Nos collections, mais en même temps, on peut les retirer, les guillemets, parce qu'on a paraît-il, des choses très intéressantes. Mais donc, les personnes du musée Horta m'ont donné des idées, par exemple, de trouver des étudiants dans le domaine des archives et de la bibliothèque, etc. Et des étudiants qui pourraient faire un stage, un mémoire sur la bibliothèque, et donc qui y travailleraient, qui pourraient faire une permanence dans le cadre de ce mémoire. Donc j'ai même eu déjà des noms de je ne sais plus quel master. Et donc, tout ça, c'est des projets qui me tiennent à cœur. C'est ouvrons cette bibliothèque. On ne pourra pas directement, à mon avis, emprunter les livres parce qu'il y a un travail énorme d'encodage, etc. Mais déjà y venir, déjà y consulter des ouvrages. Et alors aussi, c'est le lieu que j'apprécie tout particulièrement pour faire les fameuses activités telles qu'arpentage et tout. C'est un lieu vraiment magnifique, quoi.
Bah, on va essayer d'y aller.
Ouais.
Alors, le temps de faire le déplacement, nous, on va diffuser un petit reportage. En fait, on parlait juste avant du fait qu'on était ici voisins de la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek. Et bien, pour l'instant, et ça, c'est un peu de l'autopromo, le XARA, mène une activité de jury citoyen. Voilà. Et donc, en fait, c'est quoi ? C'est un partenariat avec le Bruxelles Short Film Festival. Nous allons, nous, encadrer un groupe de citoyens et nous allons les former au regard critique du cinéma. Et puis après, ce jury ira voir les films du Bruxelles Short Film Festival et remettra un prix, le prix du jury citoyen. Et donc, les ateliers d'initiation au cinéma se passent dans une des salles de la Maison des Cultures. On y a glissé un enregistreur et un micro hier. On écoute ça et puis on se retrouve dans la bibliothèque après. Ça vous va ?
À tout de suite. Super.
On commence ?
Oui, oui.
Moi non plus.
Alors, est-ce que, j'oublie votre prénom ?
Nathalie.
Quelqu'un pourrait résumer ce qu'on a fait la dernière fois pour Nathalie ?
C'est déjà fait ?
Les films, c'est fait.
Oh là là, les films, c'est fait. Mais alors, qu'est-ce qu'on avait vu de manière un peu plus théorique ? On va faire comme la dernière fois, on va se faire une heure où on parle un peu de différentes choses, des exemples, des anecdotes, et on discute un peu de la manière dont on a
parlé. Il y avait des couleurs, il y avait différentes choses que vous aviez expliquées.
Ouais. Les lumières.
Nous sommes ici dans un atelier pour apprendre le cinéma.
Les couleurs, c'est ça.
Pour savoir comment tout cela fonctionne, les gros plans, les lumières, les sons. Alors moi, personnellement, je suis ravie d'être ici, de suivre ces cours, entre guillemets, car c'est pas pour faire du cinéma.
Costume, les lumières.
J'apprends un tas de nouvelles choses que j'ignorais. Maintenant, quand je regarderai un film, j'aurai des idées. Tiens, ça c'est caméra épaule, ça c'est zooming, ça c'est travelling, ça c'est panoramique. Je pourrais me faire une idée de ce qui se passe un petit peu, je dis bien entre guillemets. Je me nomme Marie-Louise, j'habite Molenbeek. J'habite une belle rue, rue de la Belle Voie de Roman. Chaque fois quand je donne mon adresse, les gens disent toujours « Oh, c'est beau !» Je dis « Oui, mon prince n'est pas là. »
Content, ça a bien imprimé, ça veut dire.
Maquillage,
effectivement. Ouais, ça.
Une des deux petits films ont bien marqué aussi, enfin pas en second.
On est à Molenbeek dans le cadre du Festival du film. On a une approche de ce que c'est le cinéma, des manières de filmer, des cadres, des décors, un petit peu la théorie. Moi, j'ai voulu participer à ce festival parce que j'ai déjà participé à un jury citoyen. Et je trouve ça hyper intéressant. On est un peu bombardé de films, de théories, mais c'est vrai que ça donne un autre regard. Et je voulais ici, cette fois-ci, comme c'était plus diversifié au niveau court-métrage, voilà, c'est un petit peu y participer. Oui, je m'appelle Françoise et je viens de Scarbet. Je suis pensionnée.
J'aime bien cette formation parce que bon, je m'y connaissais pas trop en cinéma, court-métrage et tout ça. Donc, je vais refaire des petites recherches sur les termes. Et puis, ben, ici, on développe tout, on développe les films. Et alors après, je remets au net les notes que j'ai fait sur la journée. Je vais rechercher les acteurs et les films. Je suis prête à aller voir, moi, des films, donc peut-être sur YouTube, on ne peut pas, mais voilà. Et pour développer, ben, pour comprendre et pour la culture aussi. Donc maintenant, grâce à la formation, j'ai acquis un vocabulaire. Je vois le cinéma d'une autre façon. Et je suis contente de revenir. J'appréhende chaque fois le mardi suivant pour dire on avance dans la formation et dans les termes et tout ça. Je m'appelle Edith, j'habite à Molenbeek, je suis péricultrice et j'aime bien le cinéma. Quand je reçois mes articles 27, c'est souvent avec mon mari qu'on va au cinéma.
On y va ?
Oui.
On se lance ?
Oui.
Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi, et Paris qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas. Une valse à trois temps qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant une valse à quatre temps. C'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, offre selon amant 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux, une, deux, trois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi, et Paris qui bat la mesure, nous fredonne, fredonne déjà. Une valse à trois temps qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant une valse à quatre temps. C'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'aie 20 ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, presse nos amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au troisième temps de la valse, nous valsons enfin tous les trois. Au troisième temps de la valse, il y a toi, il y a l'amour et à moi. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi, et Paris qui bat la mesure, laisse enfin éclater sa joie. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant une valse à quatre temps. C'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, presque dans sa montre, sans trop le temps de bâtir un roman. La 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 la.
Et ça, c'était Jacques Brel. Voilà. Et on est maintenant dans la bibliothèque. Mario, une première impression de cette bibliothèque de l'Académie.
Oui, donc là, mais...
Dans le micro, Mario, dans le micro. C'est pas possible.
Alors, on est dans une... Dans... Comment ça s'appelle officiellement cette salle?
Donc, c'est la bibliothèque.
La bibliothèque de...
De l'Académie.
De l'Académie à Molenbeek. Et donc, c'est un espace de combien de hauteur? Mètres d'hauteur, plus ou moins, tu dirais?
18, non, je rigole, je ne sais pas du tout.
5, 6, 7
au moins 6,
5 mètres,
7, hein,
6, 7, hein, c'est haut. Voilà, un bel, très bel espace.
Un peu comme les fantasmes, les bibliothèques, tu vois, avec des escaliers qui te montent au deuxième étage, là,
la mezzanine.
Ouais, c'est beau. Hein.
Et moi, la question que j'avais pour Axel, c'était, voilà, en venant ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compté les livres? Et donc, il était en train de me raconter
qu'en fait, non. Enfin, il y a sans doute quelqu'un qui sait ça, mais je devrais le trouver ou la trouver.
C'est un appel. Hein, si quelqu'un connaît le nombre de livres qu'il y a.
Voilà. Il y a une personne qui était avant éducatrice qui a fait un dossier qui avait commencé l'encodage. Et donc, ça, on l'a retrouvé. C'est une base pour redémarrer. Mais voilà, il faut venir voir les armoires pour un petit peu se faire une idée de ce qu'on a. On a des revues, énormément de revues liées aux arts décoratifs, à l'architecture. Et ce qui est bien, paraît-il, c'est qu'on a des revues complètes. Enfin, on a tous les numéros. Et voilà, donc on a vraiment quelques ouvrages qui avaient l'air de vraiment intéresser le musée Horta et une personne qui nous a contactés. Voilà.
Et c'est ici que vous exposez aussi le résultat donc du cours, c'est quoi, fabrication de livres ?
Art du livre.
Art du livre, ouais.
Art du livre, exactement. Donc c'est un atelier qui est donné par le professeur Isabelle Francis. Et donc, il faut venir voir hein, ce week-end. Ce sont toutes des choses très précieuses, très délicates, qui se voient en 3D, enfin pas que, mais aussi en 3D, autour de ce bel objet qu'est le livre.
C'est important pour vous, Axel, vous qui êtes, je pense, ancien libraire.
Tout à fait.
Est-ce qu'on peut juste rappeler jusque quand le soir ça va être ouvert et accessible ?
Oui, tout à fait. Hein. L'exposition commence ce soir à 18h jusqu'à 21h. Et puis, on peut venir demain, grosso modo, dans l'après-midi, samedi et dimanche, toute la journée de 11 à 17. Hein. Voilà, donc venez. On a mis en place un système de réservation qui est assez efficace, mais il y a beaucoup de plages horaires qui sont complètes. Mais ça vaut quand même la peine de venir parce que...
Et ça, c'est quelqu'un qui appelle pour réserver, par exemple.
Ouais. Voilà. Et donc, allez, maintenant, j'ai perdu le fil. Le système permet de voir si les personnes qui ont réservé sont effectivement là. Et donc, on compte sur un certain nombre de personnes qui ont réservé qui ne vont pas venir. Et donc, si quelqu'un vient, il y aura sans doute moyen de rentrer. Voilà. Vous êtes les bienvenus.
Et donc, un mot sur les livres, Axel, qui vous ont accompagné toute votre vie, quelque part ?
Ah, ça, c'est une question, Thibaut. On va devoir prolonger. Non. Il y a un livre auquel je pense et dont j'ai parlé récemment à un séminaire. C'était Le Maître Ignorant. Hein. Donc, si je suis ici aujourd'hui à l'Académie, c'est aussi un peu grâce à ce livre. Et là, je vais devoir vous laisser, en fait. J'ai une urgence de directeur.
Eh bien, ça arrive. C'est comme ça. Merci en tout cas pour l'invitation, Axel, et à très vite. À très vite.
Merci Axel, au revoir.
Venez à l'Académie, venez visiter cette exposition, le travail des étudiants de l'Académie. On a vu, Mario, on a vu plein de belles choses, nous, hein, en se déplaçant vers cette bibliothèque.
Je suis là en train de me pencher sur un travail que j'adore.
Alors, est-ce que tu pourrais nous le décrire pour les auditeurs ?
Je ne sais pas si ça dépasse mon imagination, mon intelligence intellectuelle.
Sur une espèce de... Je pense que c'est une feuille à deux, une grande feuille sur laquelle il y a plein de petites feuilles roses comme ça. Et ça, ce serait une... si on est dans l'exposition sur l'art du livre, ce serait une sorte de livre, un livre à plat. Ou alors plein de petits livres, regarde. Je crois qu'il y a plein
C'est une taille de carte postale, donc c'est des petits feuillets comme ça à chaque fois d'une taille d'une carte postale ou la moitié d'une carte postale avec des dessins écrits sur les arbres, parfois des écrits.
Ouais. Peut-être que c'est peut-être un livre en cours de création, Mario. Qu'est-ce que tu en penses ?
Je vais essayer de lire ce qui est marqué. Ça m'a l'air d'être une histoire, donc quelqu'un qui raconte une histoire. Je ne vais pas le lire.
C'est long et puis c'est écrit en tout petit.
C'est écrit en tout petit, mais ça m'a l'air d'être une... En tout cas, moi, ce qui m'a attiré, c'est voilà, d'abord la couleur et le layout et les différentes...
Alors, Mario, moi, j'ai une question. Est-ce que tu te souviens de Nicole ?
Oui, tout à fait, oui.
On l'avait vu, Nicole.
Saint-Gilles, hein. C'était à l'extérieur de cet endroit qui s'appelait...
La vieille Chéchette. Il y a deux semaines, nous étions en direct avec le Landau sur la terrasse de la vieille Chéchette. On avait donné la parole à des livres vivants, un projet en fait. Les livres vivants, c'est un projet de la concertation ASBL. Ce sont des gens qui se racontent à vous en vrai. Ils ont une histoire particulière qu'ils vous racontent. Et la concertation avait envie... d'en faire aussi une version audio qui soit transportable partout, accessible tout le temps, que ces récits soient diffusés plus largement grâce à la radio. On avait entamé le récit de Nicole. On se rappelle, Nicole, elle est née au Congo. C'est une fille de colonisateur. Elle est née donc il y a très longtemps au Congo. Elle y a grandi pendant 10 ans. Elle s'est imprégnée de la culture là-bas, de ce mix de cultures hein, qu'il y avait entre Belges et Congolais. Et donc sa première partie d'histoire s'arrêtait là, sur le fait de grandir là, dans ces grands espaces, avec cette innocence aussi de ce que c'était que la colonisation. Et là, on va écouter puisqu'on a un petit peu de temps, on va écouter la deuxième partie de ce récit. C'est le moment où il a fallu pour elle partir. Voilà, on écoute ça. Et on fait un coucou à Nicole, si elle nous écoute, et à toute la concertation SBL.
Le retour en Belgique. On est parti à l'embarcadère pour prendre le bateau pour aller à Brazza. On était installés. Tout d'un coup, il y a des jeeps qui sont arrivés avec des militaires dans mon esprit qui ont fait descendre tout le monde du bateau, qui n'ont pas été agressifs avec nous, mais ils cherchaient quelqu'un qu'ils ont trouvé et qu'ils ont bien battu, en tout cas. Et en fait, c'était le dernier bateau qui était susceptible de partir à Brazza. Et à ce moment-là, il n'y a plus aucun bateau qui a traversé le fleuve. Mais ma petite sœur, qui était née au mois de mars, était handicapée. Et donc, il fallait absolument qu'elle soit hospitalisée ou qu'elle soit suivie médicalement. Et donc, mes parents ont été à l'ambassade de Belgique, à l'ambassade de Hollande, à l'ambassade de France, pour voir comment il y avait moyen de pouvoir quitter rapidement pour elle. On est allé à l'aéroport en bus avec mon père qui suivait le bus en voiture parce que lui ne pouvait pas quitter le Congo, il devait encore rester un an là. Et en fait, on était prioritaire, mais on a mis beaucoup plus de jours pour rentrer en Belgique parce qu'on est arrivé à Luanda et là, ma sœur n'allait pas bien. Et donc, c'est une infirmière qui nous a pris en charge. La petite a été hospitalisée et nous, on a vécu chez cette infirmière qui nous a accueillis, qui nous a cousu des robes parce que ma mère était partie avec une valise. Il y avait les langes de la petite, le lait, les boîtes de lait. Mais nous, on était comme on était, quoi. Puis on a transité par le Portugal, par Madrid, et puis on est arrivé à Zaventem. Moi, j'ai gardé un souvenir formidable de ça parce qu'il y avait des parachutistes qui accueillaient les gens qui étaient de retour. Et alors, j'ai été prise dans les bras du haut de mes 10 ans par un beau militaire qui m'a mis dans une couverture, m'a donné une gaufre et une bouteille de coca. Et puis on est arrivé et on était complètement hagard, quoi, parce qu'il y avait un monde fou qui attendait, qui espérait voir revenir des gens. Donc mon grand-père, le papa de ma maman, vivait dans la maison de famille, il était veuf, et donc on a été accueillis chez lui, très bien entouré par notre famille et puis par le milieu scolaire aussi. Ma mère n'avait rien. L'argent n'arrivait pas du Congo. Il y a eu des accords par après pour qu'une partie des traitements soit versée aux épouses ici en Belgique. Mais heureusement, mon grand-père était là pour faire tampon, quoi. Ma sœur a été hospitalisée directement. On a vécu 2 ans à Liège. Donc une année sans mon papa, puis mon papa est rentré, il a trouvé du boulot à Bruxelles, et puis il a cherché une maison, et c'est à ce moment-là, quand j'avais 12 ans, qu'on est venu habiter à Bruxelles. Et pour moi, c'est à ce moment-là que j'ai ressenti mes premières difficultés à vivre ici en Belgique. Parce que la petite école à Liège, c'était vraiment... C'était douillet, c'était chaleureux et douillet. Par contre, à Bruxelles, mon père avait cherché une très bonne école pour sa fille qui entrait en humanité. Et où j'ai eu des difficultés monstres à m'adapter. Le lieu était un lieu... horriblement sinistre, avec des grilles sur les fenêtres. En Belgique, tout le monde fermait les portes. Au Congo, les portes étaient toujours ouvertes. Au Congo, les gens se tutoyaient, même des gens qui ne se connaissaient pas se tutoyaient. Donc le tutoiement était quelque chose de, qui n'était pas irrévérencieux. Mais en fait, j'ai mis longtemps à comprendre en quoi j'étais différente, quoi. Il y avait des tas de choses que je ne comprenais pas. Au niveau du langage aussi, pas que le langage au Congo était différent, c'était le français, c'était un beau français d'ailleurs. J'avais hérité de l'accent liégeois de mes 2 années de passage, donc il a fallu que je m'en débarrasse assez rapidement. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a beaucoup vécu seul avec ma mère. Tout ce qui était notre culture, c'était la culture de ma mère, quoi. Et je me souviens que quand j'étais en première année d'humanité, notre professeur de français nous parlait des proverbes. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple de proverbe? Et mon proverbe, c'était « T'occupe pas du chapeau de la gamine, pousse la voiture ». Et en fait, moi, j'étais loin d'ignorer que tous les proverbes que ma mère nous donnait à longueur d'année, c'était sa propre production, quoi. C'était ce qu'elle inventait. Et peut-être que ça venait de sa famille ou de son propre imaginaire. Mais moi, j'en avais un paquet, quoi, de références qui n'étaient que de ma mère, quoi. Et donc, évidemment, ça a produit un bel effet, hein. Mon prof de français a dit « Mais enfin, mais d'où venez-vous ?» Et donc, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais gaffé, mais je ne savais pas en quoi. Et ça m'est arrivé extraordinairement souvent, quoi. Je me suis déjà dit que si j'avais eu la peau noire, en étant ce que j'étais, mais avec la peau noire, les gens se seraient rendus compte que j'étais différente et que je n'avais peut-être pas tous les codes, qu'il y avait des choses qui devaient être expliquées. Or, nous, quand on est rentré du Congo, on ne nous a rien expliqué. Je n'imaginais pas, moi, que j'étais en décalage. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidée, que j'ai rencontré quand j'avais 35 ans, quelque chose comme ça. C'était un ami. Et un jour, je lui ai parlé du Congo. Et alors, il me regarde en rigolant et dit « Ah, t'es rentré du Congo en 60. Tu as fait partie de cette bande d'hallucinés qui est rentrée. » Je dis « Mais qu'est-ce que tu veux dire ?» Ben, il dit « Moi, j'étais au collège à tel endroit. » Et à la rentrée des classes, en 60, on les a vus arriver. Ils étaient bêtes, ils ne comprenaient rien et on n'arrêtait pas de se foutre de leur gueule. Et pour moi, ça a été le déclic. Parce que tout le malaise que j'ai souvent ressenti et qui a fait que finalement j'ai arrêté de dire que j'avais été au Congo, tout ce malaise-là prenait un sens, quoi. Je me disais, mais oui, mais on était tous comme ça, bien sûr, c'est logique, on était tous déracinés. Et moi, ça m'a aidé à commencer à en parler d'abord et aussi à remettre les cases au bon endroit. Et cesser de culpabiliser aussi. Parce que finalement, quand on se fait punir à répétition à l'école, il n'y a rien à faire. Moi, je me suis dit que j'étais quelqu'un de pas OK, hein, et d'avoir honte aussi, honte. Même à Liège, j'ai arrêté de parler du Congo. Parce que quand je parlais, les filles disaient « Oh, mes parents ont dit que c'était bien fait ce qui vous était arrivé parce que quand vous étiez au Congo, vous battiez les Noirs, etc. Je tombais des nues. » Et donc, assez vite, j'ai arrêté de dire que j'avais été au Congo. Bon, j'ai grandi et je gardais toujours la certitude absolue qu'un jour on allait retourner au Congo. Et bien sûr, j'ai entendu parler des événements en 1964, de ce qui s'était passé pour ceux qui étaient restés là. Mais au fond de moi, j'étais convaincue qu'on attendait que la vie permette de retourner là-bas. Et j'avais 17 ans quand on était à table et je dis à mon père, bon, quand est-ce qu'on retourne, quoi? Quand est-ce qu'on va rentrer au Congo? Et mon père m'a regardé, mais vraiment l'air ébahi. Et il m'a dit, mais tu n'as pas compris, on ne retournera jamais. On ne retournera jamais, notre vie c'est ici, quoi. Et c'est vrai que ce moment, ça a été un moment important pour moi parce que j'ai réalisé effectivement que ma vie, c'était ici, quoi. Et quand j'ai réfléchi, je n'ai pas énormément investi entre mes 12 ans et mes 17 ans. Je n'ai pas projeté ma vie. Je n'ai commencé qu'à partir de mes 17 ans à penser à ce que j'aimerais faire dans la vie, quoi. Bon, pour moi, je suis devenue adulte, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, etc. Et donc, le Congo, finalement, s'est éloigné. Et c'est finalement, il n'y a pas tellement longtemps, il y a 8 ans, quand mon fils Xavier m'a dit « Mais je ne sais rien de ta vie, de ton enfance, tu parles jamais du Congo, j'ai envie que tu m'en parles. Est-ce que tu voudrais passer quelques soirées pour que... » Il était déjà papa à cette époque-là, quoi. Et alors, je lui en ai parlé. Et au fond, à travers ses yeux, j'ai commencé à revivre ça et à donner une réalité à ça, quoi. Voilà, c'était un petit bout de mon histoire. Et vous, c'est quoi votre histoire ?
c'est